ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Marie-Josée Hucafol. Bonsoir Marie-Josée, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes assistante sociale à la retraite et vous êtes l'une des animatrices depuis très longtemps du groupe biblique œcuménique de...
Palma.
De Palma. Et en fait, nous venons parler encore ce soir de cette semaine mondiale pour l'unité des chrétiens qui a eu lieu la semaine dernière, mais, comme vous aimez à le rappeler, qui dure toute l'année.
Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Donc, par rapport à la semaine de l'unité des chrétiens qui vient de s'achever, c'est vrai qu'il est important de savoir garder au cœur que nous sommes tous enfants d'un même Père, donc tous frères. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père dans le Christ. Voilà, et nous sommes tous rassemblés au nom du Christ, et nous devons demeurer en lui, comme nous avons prié toute cette semaine sur le cep, il est le cep, nous sommes les sarments, demeurez en moi, comme je demeure en vous, nous dit le Seigneur.
Cette sensibilité œcuménique, vous ne l'avez pas eue depuis votre enfance en fait, hein, née en Algérie, de parents espagnols, andalou plus précisément, vous avez... En fait, baigné dans un milieu plutôt, disons, chrétien de coutume, de tradition, plus que de pratique.
Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, donc je suis bien née en Algérie, à Oran précisément, et mon père est décédé accidentellement à l'âge de 38 ans, donc moi j'étais toute jeune. Donc ma mère, elle s'est retrouvée veuve à 30 ans avec 4 enfants à charge, 2 garçons de 11 et 9 ans, ma sœur de 6 ans et moi qui avais 18 mois. Voilà, et bien sûr au fil des années, ma mère est tombée en dépression parce que ça a été un grand choc dans sa vie que ce décès subit. Et je pense avoir gardé donc de cette période de deuil de ma mère un ressenti profond de sa détresse, à un âge où je ne possédais pas encore le langage. Et de là, une compréhension de la souffrance qui ne peut pas être verbalisée. Cette expérience va certainement marquer la suite de ma vie.
Un deuxième choc, c'est quand vous êtes obligé en 62 de revenir en France, rapatrié, parce qu'il y a la guerre civile. On ne parlait pas de ça, on parlait des troubles en Algérie, mais ça marque aussi une enfance. Juillet 62, Toulouse...
Oui, c'est l'indépendance hein, de l'Algérie. Et donc nous arrivons, c'est une période difficile à ce moment-là aussi. Moi, je suis petite, donc je ne réalise pas trop les événements hein, de la guerre. Mais par contre, ma mère est hospitalisée. Et donc nous, nous sommes accueillis, toute la fratrie, au foyer de l'enfance, qui est situé alors rue Achille Villadieu. Voilà. Et donc, dès que ma mère le pourra, voilà, elle me reprendra auprès d'elle. Et nous serons à nouveau tous réunis dans un deux pièces, rue Pergaminière, voilà. Et c'est là, donc, que je vais aller au catéchisme et faire ma première communion à l'église Saint-Pierre, rue Valade.
Voilà. Là, il y a une émotion,
oui.
Il y a toute une ambiance qui vous porte.
Oui, oui, oui. C'est très fort, cette première communion. Alors, je n'étais pas très accompagnée par ma famille, mais je ressentais très fortement cette première communion. Aussi... assez tôt dans ma vie, vers l'âge de 10 ans, alors qu'on était en vacances en Espagne, ma mère m'amène voir une de ses cousines qui a un enfant handicapé mental et qui est à peu près de mon âge. Et je me souviens de ce regard que je porte sur cet enfant. Et dans mon petit cœur, dans ma tête, je me dis, il faudrait que tu aides ce petit garçon. Voilà, ça me touche. Voilà, ça me touche comme un appel. Voilà, et c'est quelque chose que je vais garder très très longtemps, puisque par la suite, lorsque je rentre au collège puis au lycée, vous savez, on nous faisait remplir une fiche à chaque fois, nous disant le nom, le prénom de, et puis la profession, du père, de la mère, et puis que voulez-vous faire plus tard?
Projet
professionnel. Et dès lors, je me souviens avoir toujours marqué éducatrice spécialisée, assistante sociale. Voilà, enfin, j'avais en moi ce désir de venir en aide à ceux qui étaient dans la détresse et qui en avaient besoin. Voilà, et je pense que c'est peut-être lié au fait de cette souffrance maternelle aussi qui m'avait bien imprégnée et qui m'a finalement orientée vers ceux qui souffrent et puis aussi à une certaine écoute. Voilà, apprendre à écouter.
Donc, école d'assistante sociale, c'est tout normal après le bac.
Voilà.
Hein, c'est voilà, comme
c'est, Purpan, c'est une vocation à ce moment-là qui est née. Et avec ma meilleure amie, nous avions pensé à l'année du bac à passer le concours de l'école d'assistante sociale. On a présenté le concours de l'école de Purpan. C'était l'école régionale qui était contiguë à l'école d'infirmière à l'époque. D'ailleurs, au cas où j'aurais pas eu le concours, j'avais aussi passé le concours d'infirmière parce que je voulais absolument faire un métier paramédical et social. Voilà. Donc, comme j'ai eu les deux, je me suis dit, je rentre à l'école d'assistante sociale. Et j'avais fait une année de psychologie parce qu'à l'époque, on était obligé d'avoir le bac en poche pour pouvoir présenter le concours. Voilà. Voilà. Et mon amie est restée finalement allée à la fac voilà, pour avoir son diplôme de psychologue. Et moi, bien, j'ai poursuivi ma route en tant qu'assistante sociale.
Dans la fonction publique.
Dans la fonction publique.
Tout en étant profondément chrétienne. Alors, je pose à beaucoup de personnes, mais alors la laïcité, à cette époque, ça ne pose pas de problème.
Non.
On est catholique, on est français, mm-hmm. catholique, comme d'autres pourront être de confession ou non-croyants. Et par contre, par leur action, de montrer peut-être leur conviction.
Oui, parce qu'en fait,
pour leur comportement.
Dans cette fonction, ce qui était important, c'était d'accueillir, c'était l'accueil. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est vrai qu'à un moment donné, d'ailleurs, quand j'ai eu fait ma confirmation, je mettais une petite croix que j'avais sur moi, mais que je ne mettais pas en avant. Hein, mais voilà, je n'affichais pas mes convictions parce qu'elles n'avaient pas à être affichées. Il y a à garder une certaine neutralité par rapport aux personnes que nous accueillons. Mais la foi chrétienne m'a beaucoup, beaucoup accompagnée et aidée à ce moment-là dans ma vie. Parce que je pouvais confier les personnes que j'avais accueillies, leur détresse, leur souffrance, moi qui avais finalement peu de moyens pour les aider vraiment comme j'aurais voulu le faire, bien je pouvais les porter quand même dans la prière et cela me portait, et je l'espère, à aussi porter des fruits pour les personnes que j'ai pu rencontrer.
À la messe dominicale ou bien tous les soirs par une sorte de retour sur vous en cas de difficulté.
Ah oui, alors en fait...
Nous touchons à l'intime là, Marie-José, excusez-moi, mais
oui,
je crois que c'est
mais
important.
Mais en fait, c'est parce que, voilà, il ne faut pas brûler les étapes, parce qu'en fait, je me suis, comment dire, mise en route par rapport au Christ et par rapport à la foi.
Vous voulez dire converti?
Ou converti. Alors j'avais fait ma première communion, mais c'est vrai que ma foi, elle était restée, on va dire, un petit peu...
comme l'eau sous les plumes d'un canard.
Elle couvait, voilà. Elle était là. Le germe était semé. Voilà, oui. Et ça c'est très important. Je pense que ce qu'on reçoit dans l'enfance, c'est quelque chose qui germe ensuite.
Qui dure,
voilà. Et il se trouve que, bon, je me suis mariée à l'église. Voilà, parce que, tout à fait, parce que mes beaux-parents étaient assez attachés à la tradition. Moi, je n'ai jamais été en révolte contre cette tradition. Non, pour moi, ça m'allait bien. Et donc ensuite, mes trois enfants, voilà, ont été baptisés.
Guenille, Guillaume, ce sont des prénoms...
Et Benoît.
Et Benoît, voilà, des prénoms qui ont un sens dans la tradition catholique et dans une certaine fraternité. Alors, après ce mariage, dans votre vie professionnelle, vous avez eu cette ouverture vers l'œcuménisme, mais peut-être nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission, parce que vous nous avez apporté un chant qui vous tient à cœur et ça s'appelle justement Fraternité.
Fraternelle sur la fraternité.
Nous l'écoutons.
Fraternelle, un regard vers les sommets. Fraternelle,
des frontières à dépasser.
Fraternelle, premier pas d'une aventure.
Une foi qui nous rassure.
Fraternelle avec le Christ. Dieu lumière. Se dit
fraternelle, douce brise
amis sur notre route, une voix qui nous écoute,
fraternelle avec le Christ,
Dieu d'alliance nous choisit.
Une voix qui tient promesse, fraternelle avec le Christ,
Dieu nous aime à pleine vie.
Fraternelle,
longue marche dans la foi,
fraternelle,
des témoins disant je crois.
Fraternelle,
joie de vivre une espérance,
une voix qui nous défense.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Marie-Josée Hucafol, vous êtes assistante sociale à la retraite et vous animez un groupe biblique œcuménique à Balma. Et nous parlions de ce chant sur la fraternité. Alors, la fraternité, c'est d'abord, bien sûr, à l'intérieur de votre famille, dans votre milieu professionnel, mais aussi cette ouverture œcuménique dont vous allez nous parler et qui est venue très tôt, à partir de l'entrée au catéchisme ou de,
oui,
de
tout
votre
à fait.
Confirmation.
Oui, c'est
sur
cela.
Le tard, la confirmation.
C'est cela. En fait, c'est lorsque mon fils est né, rentré au CE2, sur la paroisse, le prêtre, le père Philippe Chapoton, lance un appel pour les bonnes volontés, bien sûr, pour accompagner un groupe d'enfants. Et je lève le doigt, voilà, je me retrouve là à animer le caté avec un petit groupe d'enfants.
Des ados.
Des enfants d'abord. Ensuite, il y aura des adolescents. Ensuite, la coordination des équipes de catéchisme et d'aumônerie du doyenné. Puis du catéchuménat pour les adultes, de l'animation liturgique et en même temps le groupe biblique. Tout cela, si vous voulez, ça se fait sur une dizaine d'années. Voilà, mon engagement, ça a duré 27 ans pour la catéchèse. Et en fait, tout cela, ça a été un chemin de retour vers le Christ qui me conduira à demander la confirmation le 13 juin 1998. J'ai 42 ans à ce moment-là, voilà. Et j'écrivais au Monseigneur Marcut, qui était l'archevêque à ce moment-là, tandis que je parlais du Christ aux enfants, lui, il parlait à mon cœur. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu à ce moment-là une foi grandissante. Et c'est en relisant mon itinéraire spirituel à l'occasion de ma lettre à l'évêque que j'ai pris conscience de l'extraordinaire liberté que Dieu m'avait laissée lorsque je m'étais éloignée un petit peu de lui et de la douceur avec laquelle il avait œuvré pour me ramener à lui. En fait, il s'est manifesté dans les diverses rencontres et des personnes qu'il a mis sur ma route, qui ont été des témoins de la présence de Dieu, et je pourrais les comparer à l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à la crèche. On n'en est pas si loin puisqu'on vient de le vivre il n'y a pas si longtemps. Et donc c'est sur ce chemin-là que j'ai rencontré le père Benoît Hagenimana, c'est un prêtre rwandais, que j'ai rencontré dans le cadre professionnel au moment du génocide
du Rwanda,
puisqu'il est venu me voir à ma permanence, puisqu'il accueillait son frère et ses deux sœurs, et il avait besoin de conseils pour les démarches administratives et tout ça. Et ce prêtre rwandais, de spiritualité salésienne, est quelqu'un avec qui j'ai pu évoquer tout ce qui touchait à la foi, à la connaissance du Christ et qui m'a initiée à la spiritualité de Saint François de Sales. Voilà. Et
là, vous commencez à rentrer dans les détails des congrégations. Saint François de Sales, c'est une sensibilité également un peu différente de Don Bosco, mais ce ne sont pas les franciscains ni les dominicains. Et donc, quand on s'engage avec le Christ, il nous emmène toujours un peu plus loin.
Toujours.
C'est un parcours de vie. C'est à la fois une exigence, mais une grande paix intérieure et
tout
une joie profonde.
Oui, et je me rends compte à ce moment-là que... Mais ça se fait tout seul. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la pédagogie de Dieu, je dirais, c'est ce respect extraordinaire qu'il a de notre liberté et du respect qu'il nous porte. Il ne nous contraint jamais à adhérer à lui si nous n'y sommes pas prêts. Ça, je l'ai appris dans mon itinéraire et j'ai vu avec quelle douceur, avec quelle pédagogie il se tient à la porte et il frappe. Mais à aucun moment, il ne fait intrusion si on n'est pas prêt, si on ne l'autorise pas, si on n'écoute pas.
Voilà, chacun son rythme.
Chacun son rythme et Dieu le permet tout à fait. Il n'y a jamais aucun rejet. C'est ce qui m'a permis aussi de comprendre à quel point le Seigneur nous aime. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose où je ne me suis jamais sentie plus privilégiée qu'une autre ou que d'autres n'y avaient pas accès. Non, j'ai toujours pensé que Dieu aimait du même amour toute l'humanité, tous ses enfants. Et c'est pour cela que je n'ai pas du tout été gênée ni choquée quand j'ai rencontré, que j'ai approfondi l'écuménisme avec le père Jean-Louis Olmos, à qui je rends hommage ici parce que ça a été une amitié avec le père Jean-Louis de 30 ans. On s'est connus en 88 et il est décédé en janvier
de l'année dernière. On ne le sait pas.
Oui.
Il avait
2000,
fait sa thèse d'ailleurs à l'université du Mirail sur les Morisques.
Oui.
Et donc l'Espagne pour vous, c'est aussi, un lien qui vous a rapproché.
Ça nous a rapproché.
Et avec aussi une grande sensibilité à l'œcuménisme. Jean-Louis Olmos est de ceux qui ont organisé ces groupes bibliques. Nous avons eu dernièrement Simone Lago. Et Simone et Bernard Lago, mais Jean-Louis Olmos a fait beaucoup. Et vous étiez dans ce groupe-là depuis, donc, vous me
disiez, il y a 25 ans. 25 ans que j'ai rejoint le groupe biblique de Balma. Le père Jean-Louis, nous nous retrouvions régulièrement pour parler du Christ. Et puis lui aussi, je l'avais un petit peu entraîné dans la mouvance de la spiritualité salésienne. Et nous avons fondé vraiment une amitié spirituelle très forte. Et j'aimerais dire ici la définition de l'amitié spirituelle de Saint François de Sales qui dit « C'est une heureuse rencontre que deux esprits qui ne s'aiment que pour mieux aimer Dieu. » Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vivre vraiment très fort. Et au niveau de l'écuménisme, le père Jean-Louis était très ouvert puisqu'il était délégué à l'écuménisme du diocèse. Et c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, cette unité des chrétiens, cette ouverture aux différentes églises, à nos frères juifs, à... Oui, être toujours dans la bienveillance, dans l'accueil de la différence. Et c'est pour ça que c'est si important pour moi aussi. C'est pour ça que j'associe écuménisme à fraternité. Parce que la fraternité, c'est ce regard que l'on porte sur l'autre. On le regarde vraiment. On le voit comme un frère, pas comme quelqu'un qui a...
À convertir.
Tout à fait.
Quelqu'un
avec qui on peut partager ce qu'il a de différent de moi, ce qui peut m'enrichir. Et c'est ce que nous trouvons dans nos groupes écuméniques, c'est que nous échangeons sur la parole de Dieu, mais en même temps, avec notre tradition, nos cultures, nous avons tous des chemins différents.
Oui, mais la semaine dernière, nous avons rappelé dans les différents lieux de culte, les temples, les églises, et j'allais dire dans la rue, que nous ne connaissons pas vraiment beaucoup les schismes ou les conciles qui ont marqué de manière parfois dramatique le fait de se crisper sur un dogme et de vouloir dire « nous avons la vérité » et puis vous êtes des mécréants ou bien vous êtes quand on ne va pas dire des blasphémateurs, alors que nous avons les mêmes racines de Jésus qui est mort sur la croix et dont nous affirmons tous les jours qu'il est vivant.
Oui, et nous avons insisté durant cette soirée de vendredi sur l'importance de faire communion, mais vraiment communion, pas artificiellement, pas parce que on se dit que bien considéré, ben, nos divisions ne sont que peu ou même pas fondées, mais qu'on doit faire réellement union, voilà, et que l'on doit vraiment vivre cette communion avec le frère. Qui, même s'il est d'autre confession, parce que nous avons le même Père et le même Frère qui est le Christ.
Il y a des sensibilités, des charismes, disons, d'âge, puisque les jeunes vont prier d'une autre manière, vont chanter à leur manière. Et nous avons aussi à exprimer à travers un langage différent. Certains vont chanter avec du grégorien, d'autres vont chanter les gospels. Nous avons écouté tout à l'heure justement ce chant de la fraternité, qui, on va dire, qui décoiffe.
Et alors à ce sujet, je voudrais dire justement qu'en 2001, j'avais fait l'expérience de la vie de la communauté de Thésée, oui. Où je me suis rendue avec un de mes fils et un de ses copains, qui avaient tous les deux 18 ans, et j'ai vu ces milliers de jeunes qui chantent, qui prient et qui vivent la fraternité. Et alors, je ne saurais que trop encourager tous les jeunes d'aller faire au moins une fois un séjour à Thésée, où ils vont rencontrer des jeunes de tous les pays. Il y a une universalité là, de fraternité. Je sais que mon fils en avait été profondément touché et que ça l'a transformé même lui aussi dans sa foi, dans son rapport, dans sa relation à Dieu. Voilà. Et alors, je ne saurais que trop encourager les jeunes à faire cette expérience. C'est trop beau, c'est merveilleux. Oui.
Comme le projet que nous avons aussi de rappeler ensemble le Vendredi Saint, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm. Et je vois que le temps passe très vite. Vous avez apporté une prière qui est la prière que vous aviez préparée.
Voilà.
L'année de ma confirmation,
j'avais écrit cette prière que je partage avec vous. Elle est toute simple. Voilà. Seigneur, toi que je n'ai pas pu servir lorsque tu étais parmi nous dans le corps d'homme de Jésus, donne-moi de te servir et de t'aimer maintenant dans le corps du Christ ressuscité qu'est l'Église. Que cette Église, semblable à un champ de fleurs multicolores, bercée par ton souffle et arrosée par ton amour, se répandre à travers le monde. Qu'elle embaume la terre entière en témoignant de ta paix par son unité. Qu'elle te rende gloire en chantant ta louange chaque jour pour être à son tour ton corps glorifié à la fin des temps. Amen.
Amen. Le chant, nous l'avons expérimenté dimanche lorsqu'il y a eu la fête de l'unité. Et nous savons aussi que cette ouverture entre chrétiens, lorsque nous sommes dans le respect et l'écoute, même quand nous ne comprenons pas, ou bien cette espérance qui nous habite, même quand la route est difficile, nous l'ouvrons sur les autres religions, sur ceux qui n'ont pas forcément la même croyance. Je me rappelle un livre que nous avions échangé, « Jésus rendu aux siens », car il y a un gros effort qui est fait de la part de l'amitié judéo-chrétienne pour ouvrir à la lecture des textes que l'on appelle le Second Testament. Nous avons également aussi, sur Toulouse, beaucoup d'efforts qui est fait au niveau des journées des semaines de la fraternité, avec, dans le cadre d'ailleurs encadré par les mairies ou par d'autres groupes qui se disent agnostiques, mais pour signaler l'effort qui est fait pour vivre ensemble aujourd'hui dans une société laïque avec ceux qui se disent de sensibilité musulmane ou d'autres sensibilités de la pensée libre ou de la libre pensée. Donc merci Marie-Josée pour votre témoignage et je crois que vous voulez terminer notre entretien par une
parce
pensée.
Que ce que je voudrais dire, c'est que conclure en disant que tout ce que nous avons vécu pendant cette semaine de l'unité, nous devons le poursuivre. Ça doit être quelque chose qui nous tient à cœur tout au long de l'année. Comme nous le dit Saint Paul dans son épître aux Romains 12, au verset 10, « Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. » Et le pape François, dans ce même esprit de fraternité humaine, prie et nous demande de nous unir à lui par cette prière. Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d'autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous.
Merci Marie-Josée pour ce mot de la fin. Merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.
Et merci à vous de m'avoir permis de prendre la parole et de témoigner. Voilà, je vous en remercie.